Chapitre 4. Monique, malgré ses appréhensions légèrement romanesques, fut si peu séquestrée que sa mère accepta le lendemain, pour elle-même et pour sa fille, une invitation de M. Colombe à assister à la fête vénitienne que différents cercles se proposaient d'offrir au prince et à la princesse d'Algie. « Tu n'as pas d'objection ?» dit froidement Mme Odèle en tendant à sa fille le billet de M. Colombe. « Pas la moindre. Ce sera charmant !» répondit-elle du même ton. Elle se disait avec un tressaillement intérieur qu'elle ne manquerait pas d'y rencontrer Rémy d'Orbe, puisque la fête se donnait à l'hôtel Riparch. Depuis ce mémorable après-midi à Chanvert, il avait eu une part dans toutes les minutes qu'elle avait vécues. C'était lui qui mettait en elle une autre âme plus résistante et plus courageuse. Elle n'osait pas s'avouer que c'était le bien de Rémy qu'elle défendait, mais elle savait, tout au fond, que c'était pour lui qu'elle se gardait libre, pour lui s'il voulait d'elle. La guerre qu'elle soutenait était une guerre sainte, depuis qu'elle était descendue dans son propre cœur et qu'elle avait considéré face à face son secret le plus intime. « Tu sauras, j'espère, observer au moins les convenances extérieures à l'égard de M. Colombe, » lui dit sa mère, quand Monique, dans sa jolie toilette de dentelle écrue garnie de rubans de velours rouge foncé, vint la rejoindre au salon, toute prête à partir. « Oh, sois sans crainte, maman, je le ménagerai, » dit-elle assez dédaigneusement. « Le voici. » Il entrait, en effet, un peu plus compassé qu'à l'ordinaire et affectant de ne s'adresser qu'à Mme Odèle. Monique lui en fut reconnaissante, attribuant cette réserve à une délicatesse qui, chez M. Colombe, avait souvent des formes un peu gauches, mais n'en existait pas moins. Sa voiture les attendait à la porte. Comme il y faisait monter ces dames, il leur annonça que Mademoiselle des Anges se trouverait probablement à la fête, il l'avait vue le matin même chez elle. Monique comprit la menace tacite que renfermait cette simple phrase. M. Colombe avait mis la redoutable maîtresse de Chanvert au fait de la situation, elle accourait à la rescousse avec toutes ses armes. Mais Rémy d'Orbe serait là lui aussi. Monique, après l'avoir vue, ne fût-ce qu'un instant, ferait des prodiges de vaillance, elle en était sûre. Suivant son système de défense, elle n'ouvrit pas la bouche durant tout le trajet. Sa mère entretenait M. Colombe du rétablissement du prince d'Algie dans son légitime héritage, car elle était un ferme partisan du droit divin. Il était 9 heures quand la voiture s'arrêta dans la cour de l'hôtel Riparch. La nuit était transparente, l'air chaud, un peu lourd. Aucun souffle n'agitait les guirlandes de lampions qui couraient d'un arbre à l'autre autour des jardins. M. Riparch était aux anges. Le prince, son prince, lui avait exprimé sa satisfaction de cette atmosphère sereine et M. Riparch n'était pas loin de croire qu'il y était pour quelque chose, à force d'avoir tapoté le baromètre. La cour était admirablement éclairée par 2 étoiles de lumière électrique qui rayonnaient, limpides comme des diamants gigantesques, à droite et à gauche du perron. Dans le fond, sous la masse sombre des arbres, piqués de 1000 points de feu, on voyait éclater, de minute en minute, l'embrasement des feux de Bengale, sur lequel des ombres élégantes se détachaient tout à coup. M. Colombe offrit son bras à Mme Odèle. Monique marchait à côté de sa mère et regardait autour d'elle avec une fiévreuse impatience. Sans doute, Rémy d'Orbe avait épié leur arrivée, car il se trouva devant eux avant même qu'ils eussent gagné les jardins. « Ah, j'ai à vous remercier de votre aimable attention !» fit Mme Odèle en répondant à son salut respectueux par un signe de tête assez bref. « Vos billets sont arrivés après ceux de M. Colombe. » Comme il me paraissait regrettable qu'ils fussent perdus, je les ai envoyés à une de mes amies qui n'avait pu s'en procurer. Monique s'éloigna brusquement de sa mère. Pourquoi ne lui avait-on rien dit de cela? Elle oubliait qu'un régime de mutisme prévalait depuis 2 jours dans leur intérieur. L'essentiel pour moi est de vous voir ici, répondit Rémy. Je commençais à craindre que vous n'eussiez été retenue. Mme Odèle le trouva trop familier, bien que ses manières fussent parfaitement courtoises. « Cet envoi de billets lui avait déplu et l'intention évidente qu'il montrait maintenant de se joindre à leur trio n'était pas à tolérer. « Il y a déjà beaucoup de monde, il y a déjà beaucoup de monde, reprit-il, mais j'ai découvert là-bas, au coin de la terrasse, un banc d'où vous verrez très bien les bateaux et le feu d'artifice. » Là-dessus, il offrit son bras à Monique, qu'il accepta, sans tourner les yeux vers le visage courroucé de sa mère. L'esprit de révolte s'emparait d'elle tout entière. Elle était décidée à ne plus rien ménager, à montrer ouvertement son horreur pour la contrainte qu'on lui imposait, et surtout à ne pas se refuser, pour plaire à son odieux garde du corps, la douceur d'un moment d'entretien avec Rémy. Elle aurait souhaité qu'il emmenât bien vite et bien loin, au lieu de la conduire lentement entre les groupes, en s'arrêtant parfois pour s'assurer que M. Colombe et Mme Odèle les suivaient. Rémy d'Orbe avait fort bien interprété l'accueil glacial de Mme Odèle et le visible embarras de M. Colombe, qui hésitait entre son reste d'amitié pour Rémy et une naissante jalousie. Le jeune homme devina que la grande question était encore pendante, que les gardiens de Monique redoutaient tout ce qui pourrait l'influencer dans un sens contraire à leurs désirs et qu'ils le considéraient, lui, comme un intrus vaguement dangereux. Il eut toutes les peines du monde à s'empêcher de dire à Monique « Vous avez demandé 8 jours, n'est-ce pas ?» Du reste, la question était inutile. Rien qu'à la façon presque impétueuse dont elle avait pris son bras, il sut qu'elle n'était pas fiancée à M. Colombe, qui lui faisait horreur, au contraire, et qu'elle avait hâte de s'éloigner de lui. Ils découvrirent trop tôt, au gré de la jeune fille, le banc dont Rémy avait parlé. Les deux dames s'y assirent en silence, tandis que M. Colombe leur faisait face, appuyé contre le mur, la poitrine bombée, la main dans son gilet, moins à l'aise cependant qu'il ne tenait à le paraître. « Nous serons fort bien ici, en effet, » dit Mme Odèle. « Merci de nous avoir indiqué ce banc. Mais nous serions désolés de vous retenir. Vous avez sans doute bien des connaissances dans cette foule. » C'était un congé à ne pas s'y méprendre. Rémy s'inclina, exprima aussi calmement qu'il put l'espoir de rencontrer de nouveau ces dames si elles faisaient le tour des jardins, puis s'en alla, se promettant bien de provoquer lui-même une occasion de parler à Monique si le hasard ne la lui fournissait pas. Monique baissa la tête, elle avait le cœur serré d'une inexprimable angoisse, tout son courage s'en allait avec Rémy. Elle aurait voulu courir après lui, lui crier « Prenez-moi, cachez-moi quelque part, j'ai peur de moi-même. Ils finiront par obtenir ce qu'ils veulent si vous ne restez près de moi. » Elle se sentait mortellement lasse, comme à la veille d'une maladie. Un quart d'heure de repos et de silence lui ranimait, mais M. Colombe vint s'asseoir à côté d'elle, malgré le mouvement d'aversion qui la fit se retirer tout au bout du banc. Il feignit de n'en rien voir, ce qui était facile, car les lampions suspendus aux arbres ou égrenés dans l'herbe, autour des corbeilles, ne répandaient qu'une faible lumière de vert luisant. Le lac se constellait d'étoiles mouvantes, dont les rapides évolutions fascinaient et lassaient les yeux. Monique aurait voulu leur tourner le dos. Dans sa disposition d'esprit, elle eût préféré ne rien voir, ne rien entendre. Ces lueurs mobiles, ces formes qui flottaient, tournoyaient, s'effaçaient, ne faisaient qu'augmenter sa fatigue et la confusion de ses idées. M. Colombe lui parla, elle répondit au hasard, avec une impatience qu'elle ne dissimulait nullement. Il lui dit que l'enfant du relieur avait eu une bonne journée, le docteur assurait que tout péril immédiat avait disparu. « Oui, je sais cela, » dit Monique. « Vous y avez été aujourd'hui ?» Non, maman a envoyé la bonne prendre des nouvelles. Mais vous irez voir cette pauvre mère? Non. Elle a besoin de consolation. Quand on a du chagrin, tout ce qu'on souhaite, c'est le silence, fit Monique en quittant le banc pour aller s'accouder sur la balustrade de pierre dans l'angle de la terrasse où, pendant 5 minutes, elle put s'imaginer qu'elle était seule. Monsieur Colombe n'essaya pas de l'y suivre, et Madame Odèle, voyant que Monique avait décidément les nerfs irrités, jugea prudent de lui accorder quelques répits. Rémy d'Orbe s'en allait lentement à travers la foule, reconnu de loin à sa haute taille, qui surgissait au-dessus de toutes les épaules. Les uns l'évitaient avec ostentation, D'autres, au contraire, s'élançaient à sa rencontre, lui serraient les mains, l'affichaient. Il avait pour lui l'académie, sauf son recteur, qui était cousin de M. Colombe, la zoologie libre en la personne du professeur hétérodoxe, le barreau, sauf maître Chauvette, et les femmes les plus élégantes, mais aussi les moins bien posées dans le clan. Contre lui étaient les bonnes œuvres, qui trouvaient qu'au lieu de visiter des pays païens où son âme n'avait rien à gagner, il aurait dû fonder un hôpital ou une crèche. Les femmes romanesques, capitaine Madame Lamier, qui n'aurait renoncé qu'avec peine à voir en Rémy un séducteur de princesses exotiques, et puis tous les esprits soupçonneux, aussi nombreux à Louneuve qu'ailleurs, bien qu'on leur eût répété dès l'enfance le sublime éloge de cette charité qui ne soupçonne point le mal, qui ne se réjouit point de l'injustice. En un mot, Rémy d'Orbe devait compter pour adversaire la plupart des gens respectables. Et quelques-uns de ses alliés, surtout le professeur hétérodoxe, étaient fort compromettants. Il se souciait du reste aussi peu des uns que des autres. Il s'en allait la tête haute, d'un air assez dédaigneux pour susciter contre lui de nouveaux griefs. À la pensée que son ennemi inconnu était là peut-être, dans cette foule, le narguant, il avait des frémissements de colère, puis le mépris reprenait le dessus. Si ce n'eût été Monique, il se fût bien soucié, vraiment, de ces ineptes calomnies. « Comment, c'est vous ? Tout seul, beau ténébreux ?» C'était Mademoiselle des Anges qui arrivait au pas de charge et qui était presque tombée dans les bras de Rémy au tournant d'une allée. « Tenez, poursuivit-elle, puisque vous voilà, courez dire à mon cocher de venir me prendre dans une heure. Vous le connaissez, mon cocher ? Non ? Eh bien, donnez-moi votre bras et allons-y ensemble. Est-il possible que vous ne connaissiez pas mon cocher Pierre ? Voilà ce que c'est que de courir le monde, on revient au pays, dépourvu des notions les plus élémentaires. Avez-vous déjà vu le prince ? Je déjeunais avec lui ce matin. Pas possible ! Ce sera une bonne note pour vous. Je vais le dire à chacun. Vous comprenez, mon cher jeune ami, qu'il faut vous remuer. Il y a une cabale contre vous, réagissez, réagissez donc. Je me donne 100 fois plus de mal que vous. Où allons-nous ? Demanda Rémy en arrêtant une seconde la marche impétueuse de la vieille demoiselle. Nous cherchons Pierre, n'est-ce pas ? Ah, laissons Pierre, c'est de vous qu'il s'agit. Pierre n'en fait qu'à sa tête d'ailleurs. Je n'ai jamais pu le mater, il est encore plus obstiné que cette petite Monique. À propos, où est-elle ? « Avez-vous vu ces dames ?»« Je viens de les quitter. »« Et Monsieur Colombe ?»« Il est avec elle. »« Fort bien. »« Ah, Monsieur d'Orbe, vous n'imaginez pas les responsabilités qui pèsent sur moi. »« Prenons votre cas. Vous revenez à Louneuve, dépaysé, désœuvré, avec des avaries morales insondables. » Il faut d'abord que je vous remette en état, puis que je vous trouve une case, que je vous fasse un cercle. » Et quand vous songerez à prendre femme, c'est votre devoir d'y songer au plus tôt, vous choisirez tout de travers si je n'y mets la main. « Mon choix est fait, » dit tranquillement le jeune homme. « Déjà ? Bon, nous en parlerons. Mais conduisez-moi auprès de Madame Odel, je vous prie. J'ai 2 mots à dire à Monique, et puis je vous gronderai si j'ai le temps. » « À quel sujet ? Pourquoi avez-vous refusé l'honorable emploi que je vous ai fait offrir ? Mais déjà Madame Odel, apercevant Mademoiselle des Anges, venait à sa rencontre. Rémy jeta un coup d'œil vers Monique, toujours accoudée à l'écart. Son attitude exprimait tant de tristesse et de fatigue qu'il se demanda comment il avait pu l'abandonner pour obéir à un sentiment de banale convenance. Il aurait dû ignorer la phrase sèche qui le congédiait et rester coûte que coûte pour prêter main forte à Monique. Aussitôt, il s'approcha d'elle. Elle avait la joue appuyée sur sa main et regardait vaguement l'eau toute brillante de reflets d'encens. En cette seconde, une lueur éblouissante et bleue comme un éclair éclata soudain sur le lac. Une nuée de bateaux grands et petits, noirs comme de fines silhouettes, apparut soudain dans cette rayonnante blancheur sur les vagues d'argent liquide. La vision ne dura qu'un instant, puis s'éteignit. Un grand silence s'établit aussitôt, car ce premier jet de lumière électrique annonçait le commencement de la sérénade. Des accords lointains se firent entendre. Ils se rapprochaient en glissant sur l'eau, on entendait, mêlé à leur rythme, le battement régulier de rames nombreuses. On eût dit qu'un vol de mouettes, frappant l'eau de leurs ailes, faisait cortège aux voix invisibles qui se plaignaient harmonieusement. « Écoutez, dit Monique, c'est la sonate du clair de lune. Oh, que cela fait de bien entendre !» Les notes rêveuses de l'adagio s'étaient déjà envolées, le mouvement devenait plus rapide, on sentait deux cœurs battre dans un flot d'harmonie toujours plus large. Enfin, la grande scène de passion, tumultueuse, poignante et triomphante, roula comme un orage sur l'étendue sombre des eaux. Monique inclina la tête sur ses deux mains. Il lui semblait glisser à la dérive comme une feuille que le torrent emporte. Cette rafale de musique avait arraché le dernier lien qui la retenait encore à ses habitudes de soumission, à sa timidité naturelle. La main de Rémy se posa doucement sur la sienne. Elle ne fit aucun mouvement, mais avec un élan passionné de son cœur, elle souhaita que cette main la saisît, l'enlevât pour la conduire n'importe où et qu'une autre volonté que la sienne achevât la lutte. En cet instant, Mademoiselle des Anges se leva silencieusement et vint se placer à côté d'elle. Ses terribles yeux avaient surpris le geste du jeune homme. Aussitôt, tous les instincts de combativité s'éveillèrent en elle, la situation lui apparut clairement, elle comprit l'échec de son candidat et s'avança aussitôt au premier rang de la bataille. Rémy retira sa main, mais sans s'éloigner de Monique, à côté de laquelle il se dressait comme un protecteur. Ses regards rencontrèrent ceux de Mademoiselle des Anges et échangèrent avec eux un défi. « Je baisse, évidemment, pensait la vieille demoiselle, puisque je n'ai rien deviné jusqu'ici. Mais je n'ai point dit mon dernier mot. Il faut compter avec moi, chers enfants. Je te donnerai à toi, Monique, un mari solide et stable, à vous, Rémy d'Orbe, une femme pétrie de bonne prose de ménage et qui n'ait pas de grands élancements vers le bleu. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, vous vous ressemblez trop. Dans 30 ans, vous me remercierez, soit dans ce monde, soit dans l'autre. » « Garçon, des glaces !» dit M. Colombe en apercevant un des sommeliers de l'hôtel qui s'approchait d'eux. Monique fit un geste d'impatience. Ne pouvait-il donc se laisser oublier pendant un quart d'heure ? Sa prononciation, son timbre de voix, son habitude d'observer rigoureusement les liaisons et de dire « Les artistes que j'ai entendus à Paris exécuter cette sonate » tout de sa part devenait antipathique à la jeune fille qu'il avait l'espoir de conquérir. Le charme de la musique avait disparu. Un cliquetis de cuillers se fit entendre, Vivus Martinus en personne apportait un plateau qu'il posa sur une petite table rustique. Après avoir arrangé symétriquement les verres, le carafon d'eau frappé et les coquilles de cristal qui contenaient les glaces, il se retira lentement, puis s'adossa au tronc d'un arbre, dans l'ombre, et resta immobile, l'air fatal. « Monique, viens t'asseoir. Monsieur d'Orbe, mettez-vous là, » dit Mademoiselle des Anges en lui indiquant un siège qui tournait presque le dos à Monique. « Monsieur Colombe, ferai-je les honneurs ?»« Je vous en prie, mademoiselle. » « Je sais que Madame Odèle préfère la vanille et Monique la framboise. »« Oh, ne vous dérangez pas !» fit-elle vivement en voyant Rémy se lever pour servir les dames. « On ne vous demande pas de vous rendre utile. Contentez-vous d'être décoratif, c'est suffisant. » Rémy ne put s'empêcher de rire, mais une exclamation lui échappa au même moment. Il venait de voir Vivus Martinus se rapprocher doucement de la table, derrière le dos de Mademoiselle des Anges, et jeter un coup d'œil égaré sur le petit cercle. Puis, comme Madame Odèle plongeait la cuillère dans la glace laiteuse, d'où montait un léger parfum de vanille, il se pencha au-dessus d'elle, lui arracha des mains la coquille, fit en courant le tour de la table et jeta dans le lac coquille, glace et cuillère. « le jugement !» murmura-t-il. « La destinée ne l'a pas voulu !» Puis, son agitation faisant place à un maintien solennel, cet étrange personnage vint se camper devant Madame Odèle, à laquelle il fit une profonde révérence. « Ma conduite peut paraître insolite, » dit-il d'une voix creuse. « Je vais l'expliquer en quelques mots. Un danger vous menaçait, madame. Je vous ai sauvé l'existence. » Il s'arrêta pour recevoir les remerciements que méritait ce bienfait et promena les yeux autour de lui. Ces mots ne vous suffisent pas, reprit-il. Il vous faut d'autres explications. Une cuillère tachée de vert-de-gris a été mise par mégarde sur ce plateau. Je m'en suis aperçu après coup. Je suis revenu, j'ai saisi et noyé le funeste objet qui allait attenter à vos jours. » Là-dessus, il s'inclina et disparut avant que ses auditeurs eussent retrouvé assez de présence d'esprit pour lui adresser une seule question. « Mais il est toqué, ce garçon !» s'écria Mademoiselle des Anges. « Il aurait pu, en tout cas, procéder d'une façon plus respectueuse, » dit Madame Odel. « Je veux bien qu'on me sauve la vie, mais en y mettant des formes. » Monsieur Colombe venait de frotter une allumette bougie à la lueur de laquelle il examinait les autres cuillers. « Le vert de gris, dit-il, étant un sous-carbonate de deux toxydes de cuivre, ne saurait en aucune manière se former sur le métal anglais de ses cuillers. Ce garçon s'est trompé ou nous a trompés, voilà mon opinion. » Rémy paraissait singulièrement soucieux, mais ne disait rien. Un soupçon venait de lui traverser l'esprit. Son premier mouvement avait été de suivre Martinus, mais il y résista. Il ne voulait pas abandonner Monique une seconde fois. « Je le retrouverai, » se dit-il. « Ces glaces me sont devenues suspectes. Je me sens mal à l'aise ici, » fit Mademoiselle des Anges en se levant. « Faisons le tour des jardins. » « Mais que se passe-t-il là-bas ? Chacun y court, on se pousse. » Une masse noire, agitée, se pressait en effet à l'autre extrémité de la terrasse. Tout à coup, la lumière rouge d'un feu de Bengale l'enveloppa, découpant dans cet amas confus une centaine de silhouettes fort distinctes. « C'est le prince avec la princesse à son bras, » dit Madame Odel. « On prétendait qu'elle était souffrante, qu'elle ne descendrait pas. « Voyez comme on les entoure. Approchons-nous un peu. » Mademoiselle des Anges était curieuse de voir aussi la princesse. Elle s'avança vivement dans l'allée qu'éclairaient deux cordons de lampions. Madame Odel la suivit, un groupe nombreux, arrivant en sens contraire, les engloba tout à coup, puis il se fit une légère poussée, un mouvement en arrière. La princesse s'arrêtait et saluait d'un signe de tête gracieux Mademoiselle des Anges, qui lui avait été présentée 3 ans auparavant et dont elle n'avait pas oublié la figure caractéristique. « Tenez-vous beaucoup à voir de près ces illustres personnages ?» demanda Rémy à Monique. « Non, j'ai même affreusement peur que Mademoiselle des Anges ne se mette en tête de me présenter. Éloignons-nous de quelques pas. » Ils étaient dans l'ombre des arbres. Sans que ni l'un ni l'autre sût comment cela s'était fait, Monique trouva sa main appuyée sur le bras de Rémy et ils se mirent à marcher lentement, côte à côte, sous l'épais feuillage des ormes qu'un frisson parcourait de temps en temps. « Le silence paraît être notre genre de conversation favori, » dit enfin le jeune homme, après un long intervalle pendant lequel on n'avait entendu que le frôlement de leurs pas sur le sable et le clapotage de l'eau au pied de la terrasse. « Vous rappelez-vous que lundi dernier, à Chambert, nous avons passé 20 minutes sous un beau hêtre sans rien nous dire ?» Monique ne répondit que par un signe de tête. Elle était si heureuse qu'elle avait peur, de trop le laisser voir, peur de sentir échapper à ses lèvres des mots étranges et nouveaux comme l'émotion qui la faisait trembler intérieurement. Elle n'oubliait pas que, dans quelques minutes, il faudrait rejoindre sa mère, mais tout lui semblait vague et confus. Pour elle, la seule réalité distincte, c'était la minute présente, ce lacis de feuillage au-dessus de sa tête et la haute taille protectrice de Rémy d'Orve, qui semblait plus haute encore dans le clair-obscur mystérieux. Un couple passa tout près d'eux et se retourna pour les considérer. La dame se pencha même vers son compagnon et chuchota quelques mots. Ce fut la fin du rêve. « Allons retrouver maman, » dit Monique avec inquiétude. « Je suis sûre qu'elle nous cherche. » Un grand coup de vent qui ébranla la lourde ramée les enveloppa d'un fin nuage de sable, puis le silence se fit de nouveau, le tourbillon roula plus loin, on vit les lampions s'agiter dans toute la longueur de l'avenue. « Le temps se gâte, » dit Rémy en s'approchant du bord de la terrasse, maintenant déserte. Le ciel sombre vers l'ouest était encore très clair au-dessus de leur tête, mais les étoiles s'éteignaient peu à peu sous une grosse nuée qui montait pesamment. « Nous aurons de l'orage, » dit Monique d'un ton agité. « Maman le redoute beaucoup. Elle voudra partir, elle me cherchera.
« Oh, pourquoi nous sommes-nous éloignés ?»«
Je suis seule à blâmer, dit Rémi, mais rassurez-vous, les jardins sont mieux éclairés que la terrasse, nous retrouverons Madame Odèle sans la moindre peine. D'ailleurs, nous nous sommes écartés de quelques pas seulement. Voyez, c'est ici que la princesse s'est arrêtée pour saluer Mademoiselle des Anges. »
« N'importe, maman croira que je l'ai fait exprès !» s'écria Monique dans son angoisse, sans songer à ce qu'elle disait. « Dépêchons-nous, je vous en prie !»
Elle entraîna son compagnon dans la grande allée qu'elle parcourut du regard, autant que la lueur vacillante des lampions le permettait.
« Je ne les vois pas, et vous » murmura-t-elle.
Madame Odèle, après s'être inclinée devant la princesse, à laquelle Mademoiselle des Anges la présenta, chercha des yeux Monique. Ne l'apercevant pas, dans le groupe serré de dames élégantes et d'hommes graves qui attendaient leur tour d'audience, elle s'imagina que sa fille et Rémi avaient pris les devants. Sans dire un mot, car elle désirait cacher à M. Colombe un tel oubli des convenances, elle se dégagea du groupe et prit rapidement la direction de la grande allée sinueuse qui conduisait au jardin.
« C'est inqualifiable !» se disait-elle en jetant à droite et à gauche des regards irrités et anxieux. « Monique a donc perdu toute réserve, elle s'affiche simplement. 50 personnes l'auront vue avec ce jeune homme. » Depuis le jour de sa naissance, elle ne m'a pas causé autant de tourments que cette dernière quinzaine. »
Madame Odèle, parvenue à un rond-point vers lequel convergeaient plusieurs allées, se demandait laquelle il fallait choisir quand une exclamation lui fit tourner la tête.
« Maman, enfin, c'est toi! Nous te cherchons depuis un quart d'heure.
Avez-vous rencontré Mademoiselle des Anges et Monsieur Colombe ?» demanda la mère d'un ton glacial.
« Non, nous vous attendions sous l'avenue, nous avons fait quelques pas en longue et en large, sans remarquer que le groupe se dispersait, et nous courons après toi depuis lors. »«
Es-tu bien sûre de n'avoir pas rencontré Mademoiselle des Anges ?» répéta Madame Odèle avec insistance.
« Parfaitement sûre. »«
Cela, du moins, nous sera épargné, » se dit la mère. « Monsieur Colombe ignorera toujours cette inconcevable équipée. » Elle prit le bras de Monique et se garda de congédier Rémi. Il était préférable qu'on les vît tous trois ensemble. Cela donnerait peut-être aux commentaires une autre direction. Les nuages montaient. Un second coup de vent, une vraie rafale, éteignit d'un souffle toute une rangée de lampions. Les barques se hâtèrent d'aborder.
« Le plus sage serait de nous retirer maintenant, » dit Madame Odèle de sa voix froide et calme.
« Dans une demi-heure, nous aurons une grosse averse. » « Monsieur Dorme voudra bien avertir Mademoiselle des Anges de notre départ s'il la rencontre. » Rémi, qui s'était préparé à prendre vivement la défense de Monique, fut très étonné et vaguement inquiet de l'attitude impassible de Madame Odèle. La jeune fille, elle, savait ce que ce tête-à-tête lui réservait.